Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, fais pas ci, fais pas ça. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Il y a deux traditions dans les séries télé. La réunion, c'est le téléfilm, l'unitaire, qui réunit les anciens interprètes pour un moment spécial, sous une forme ou sous une autre. C'est par exemple toute l'équipe de The West Wing qui se retrouve devant la caméra à l'occasion des élections américaines. C'est la distribution de Friends qui se retrouvera prochainement pour partager leurs souvenirs dans les décors de la série. Et je ne parle pas de reboot, hein, uniquement d'un téléfilm réunion. L'autre tradition, c'est l'épisode spécial de Noël. Ça, c'est une tradition surtout en Grande-Bretagne. Il y a des épisodes de Noël de Downton Abbey, de Doctor Who et des grandes séries très populaires. Et si on mélange les deux concepts, si on fait une réunion au moment de Noël, là, ça donne « Fais pas ci, fais pas ça ».
Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là, attention, prends pas froid. Ou...
Presque 4 ans après son arrêt en février 2017, la comédie de France 2, chronique de la vie de deux familles que tout oppose mais que la proximité géographique réunit, revient l'espace d'un épisode spécial, dont le thème central est Noël. Un épisode qui sera diffusé pour Noël. Ce sera le 18 décembre prochain.
Dehors, le manteau blanc recouvre la misère.
Tel un fourzitou idéal. Ouais, le fourzitou, c'est le plat de Fabienne Lepic. Et son nom vous dit tout sur sa composition et son goût potentiel. Alors donc, on y évoque les sujets de société de ces 3 dernières années, depuis le mouvement MeToo et le harcèlement, jusqu'aux brutalités policières et l'angoisse qu'entraîne la pandémie. Mais tout cela vu au travers du prisme des deux familles, voisines et amies, les Boulet et les Lepic. Et l'avalanche de catastrophes qui vont précéder la soirée festive de Noël, qui est en danger, et qui sera aussi l'occasion de révéler quelques secrets, parfois enfouis depuis très longtemps, chez certains personnages. On ne pouvait donc pas passer à côté de cette série au parcours assez atypique, mais pourtant increvable, qui réunit ses acteurs et actrices et a fait d'eux des vedettes. Écoutez la réaction de Valérie Bonneton et de Guillaume de Tonquédec, Fabienne et Renaud Lepic, qui soulignent les liens qui ont uni les interprètes de la série.
Tout vient du départ où je crois qu'on s'est vraiment tous battus pour être très exigeants, pour travailler. Je crois qu'on n'a jamais envie de lâcher ça, c'est un peu comme des enfants, quoi. On n'a jamais envie de les lâcher. Donc on continue et puis on sait d'où on vient, on sait comment ça a commencé. Donc voilà, on continue, on travaille tous dans le respect, c'est très agréable, des uns des autres.
Et rendre hommage, je crois, à la production, quoi. Parce que cette ambiance et cette façon de travailler, je la retrouve rarement, et c'est ce que disait Valérie sur d'autres productions. Je l'impose même dans d'autres productions parce que je trouve que c'est une très bonne façon de faire, de se retrouver, de lire avant et de mettre de l'huile dans les rouages, parce que quand quelque chose est bien préparé, on sait tout ce qu'on a à faire quand on va enfin tourner, quoi. Et donc rendre hommage vraiment à la façon dont la production a procédé dès le début, dès les premières minutes de notre engagement à tous, c'est resté la même façon de travailler, avec des moments parfois plus difficiles, des engueulades, il y en a eu, hein. On n'était pas forcément d'accord sur les textes, sur la façon de faire, etc. Et puis tout ça, notamment Guillaume Renouille, a très bien mené tout ça, et c'est cet esprit qui prévaut encore depuis toutes ces années, qui font que je pense qu'ils sont responsables aussi du succès de la série. Voilà.
Non, mais en tout cas, quand on travaille ensemble, c'est on cherche le mieux pour les uns, pour les autres, pas pour soi. Nous, en tout cas, les acteurs, ça se passe comme ça. Hein, à Guigui.
Ouais. Ah oui.
Alors ça, ouais. C'est rarement comme ça pour les autres tournages. Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'ils ont toujours des principes, et en fait, quand on montre leur égoïsme à chacun. Par exemple, Fabienne qui dit « Oh, moi, Noël, on fait l'impasse cette fois-ci. On peut faire l'impasse. » Forcément, c'est drôle, quoi, parce que c'est leur centre d'intérêt, c'est leur intérêt à chacun, à chaque fois. Donc, c'est ce qui fait rire aussi.
Oui. Et même, on peut dire aussi, par exemple, dans des saisons précédentes, la place d'un couvert sur la table, ça a été un pugilat terrible pour la place d'un couvert. Où est-ce qu'on met la cuillère à soupe, etc. Parce qu'ils vont recevoir le patron de Renault, donc ça devient un vrai souci. Mais les scénaristes se sont aussi permis, évidemment, c'est dans cette famille-là que ces gens qui ont défilé contre le mariage pour tous vont avoir une fille qui va déclarer son homosexualité. Donc j'ai trouvé ça, et que la mère, en plus, qui est maintenant travaille à la mairie, pourrait se retrouver en situation de marier sa propre fille. Qu'est-ce qu'elle fait ? Et quand ça arrive dans votre chair, je trouve ça génial de la part des scénaristes d'oser ça. Quand ça arrive dans votre chair, c'est bien beau les idées, mais comment on fait quand ça arrive dans votre chair à vos enfants ou à votre femme? Comment on fait? C'est ça l'ADN vraiment de fait passer peut-être le coup de génie des scénaristes qui se sont emparés de cette problématique, quoi.
Renaud, c'est spoiler ça, on va en parler tout à l'heure. On a compris. Comme le réalisateur scénariste Michel Leclerc, en charge de la réunion de Noël, nous l'a dit...
Au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'écriture, on est rentré dans la crise du Covid et dans cette angoisse généralisée. Et donc, quand il y a angoisse et quand il y a malaise, il y a comédie. Parce que du coup, il y a des tabous, il y a le fait que les gens ne sont jamais d'accord. Et pour moi d'ailleurs, à chaque fois en fait, en écrivant, je pensais beaucoup en fait, mon influence principale, c'est Astérix et Obélix. C'est-à-dire, je veux dire, c'est vrai que Fépassi, c'est un espèce de village gaulois comme ça, où tout le monde se balance des poissons pas frais à la gueule, mais en même temps, il y a cette espèce de tendresse les uns vis-à-vis des autres, de bienveillance des uns vis-à-vis des autres, et plus on se balance des poissons pas frais à la gueule, et plus il y a de la joie, il y a de l'allégresse. Et donc oui, effectivement, ça me semblait, plus on a avancé dans la production, plus on s'est dit que faire un feel-good movie où certes les gens s'engueulent, certes les gens parlent des sujets qui fâchent, mais faire rire avec ça et être vraiment... L'idée, c'était vraiment de sortir du film en se disant « Ouf, ça fait du bien, un peu d'air, un peu d'oxygène ». Voilà.
Et pourtant, au tout début, les Gaulois de la série, ils ne se connaissaient pas vraiment. Ils se fréquentaient d'ailleurs assez peu. Tout comme avec ces mêmes Gaulois d'Astérix, tout repose sur l'opposition. Deux familles, deux groupes d'enfants d'âge varié et deux groupes de parents qui doivent donc élever ces mêmes enfants et ont pour cela des méthodes et des convictions diamétralement opposées. Le conflit est source comique et le projet de série créé par Thierry Bizot et Anne Gaffery joue totalement là-dessus.
Je m'appelle Renaud Lepic, voilà, j'ai 43 ans, je suis numéro 3 de l'entreprise Binet, fabricant en matériel de balnéothérapie.
Bon bah moi je m'appelle Fabienne, donc j'ai 39 ans et donc je suis la femme de Renaud. Et donc je m'occupe de nos quatre enfants, Christophe 17 ans, Soline 15 ans, Charlotte 11 ans et Lucas 2 ans.
Une des deux familles est très stricte, conservatrice, vit beaucoup sur les traditions et les acquis qu'il n'est pas question de changer. Ils transmettent donc à leurs enfants une rigueur et des valeurs qui, dans beaucoup de cas, sont totalement superficielles, basées sur l'apparence et l'image. L'autre famille est plutôt dans la catégorie des bobos. Elle prône une éducation sans réelle autorité et cherche toujours à être dans la dernière tendance.
Je m'appelle Valérie Boulet, j'ai 38 ans. Je suis responsable de projet dans une grande boîte d'événementiel. Je suis mariée avec Denis, qui a 37 ans, qui est actuellement en recherche d'emploi.
Oui, enfin, pour être précis, je suis en période de restructuration professionnelle.
Simple, non ? Efficace, non ? Il suffit que ce soit bien écrit, interprété avec conviction, et hop, ça a fonctionné, non ? Eh ben non.
Oh, la belle vie, sans amour, sans souci.
Pour remonter au début chaotique de « Fais pas ci, fais pas ça », il nous faut aller à la rencontre de quelqu'un qui était au cœur de la chaîne en 2007 en tant que responsable artistique des fictions et qui a vu naître et vivre cette série. Fanny Rondeau, bonjour.
Bonjour Alain.
Je suis ravie de vous avoir avec nous.
Mais moi aussi, je suis ravie. On va revisiter ça ensemble.
Oui, il y a de quoi raconter. Hein.
Mais la belle vie.
Nous sommes donc en 2006. Un an avant le lancement de Fais pas ci, fais pas ça, qui aura donc lieu à la rentrée 2007. Et tous les diffuseurs sont clairement à la recherche du projet de série qui sera une comédie grand public. Un projet qui sortira un peu des séries efficaces mais anxiogènes, les séries policières. TF1 a son increvable Famille Formidable et France 2, ils n'ont pas grand-chose. Le projet initial de Fais pas ci, fais pas ça a pour titre peut mieux faire. Il s'agit avant tout d'une chronique familiale sans véritable grand sujet ou grand scénario dans chaque épisode. Ce sont les petits tracas de la vie qui sont explorés à la loupe, déformés et amplifiés pour qu'ils provoquent le rire. Mais il n'y a pas de gag dans les dialogues et pas de trame véritablement dans les épisodes. Des situations, ce qui est très différent. Les enfants ramènent des poux, par exemple, ou alors on fait les courses pour la rentrée.
Bah, tu vois ? Voilà, hein. Donc le format 24 sur 32, 48 pages, petit carreau, ça n'existe pas. Ça existe en 92 pages, ça existe en 140 pages, hein, ça existe en grand carreau ou en 21 sur 29,7, mais en petit carreau, format 24 sur 32, 48 pages, ça n'existe pas.
Bah, je suis désolée de te dire ça, mais c'est ce que me demande la pro de français. Regarde, là, c'est marqué là.
Eh bien, c'est bien dommage pour toi, ma petite fille, parce que tu vas devoir te la farcir toute l'année. Et j'ai le regret de te dire que ta professeure de français est une conne.
S'il te plaît, pas si fort, s'il te plaît. Oh, tout le monde te regarde.
M'en fous. Alors, ta professeure de français, on va lui prendre un cahier de 92 pages, hein ? On va lui en arracher 44, on va lui faire un petit paquet, puis il ira se torcher avec. Là.
Alors tout ça est très atypique pour l'époque. Chloé Marsay, une scénariste qui a travaillé des années sur la série, me confiait, lors d'une interview téléphonique, que...
C'est l'intérêt de ce casting, c'est d'ailleurs pour ça que c'est un peu un ovni, je trouve, du prime time, c'est qu'on est... Enfin, c'est pas le ressort dramatique quand même qui nous captive le plus en tant que spectateur. On aime bien, parce qu'on se reconnaît, parce que justement c'est des moments croqués, parce que c'est un regard un peu ironique sur nous en fait, sur les parents, les enfants. Et puis, théoriquement ça ne devrait pas être en prime puisque ça se rapproche plus ou moins de ce qu'on peut appeler de la chronique familiale. Et le mot chronique, c'est vraiment un des mots absolument bannis de la télévision. Enfin, pour les diffuseurs, c'est un truc absolument effrayant, le mot chronique. Donc à cause de ça, c'est assez étonnant qu'on arrive à être en prime alors qu'on est effectivement sur des petites choses du quotidien. Et c'est ça qu'on aime.
Ouais.
Alors que normalement, quand on prend prime, en général, quand on est diffuseur, on se dit enjeu de vie et de mort, donc héros, médecin, policier. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, effectivement, comme vous dites, une comédie 90 minutes, mais à ce moment-là, avec un gros casting.
Et Chloé a raison, puisque la recherche initiale de France 2 portait sur une série de fin d'après-midi, où donc ce type de format, la chronique familiale, est beaucoup plus accepté. C'est pour cela que, telle quelle, l'idée répondait parfaitement à l'appel d'offres qu'avait lancé le diffuseur. Je vous avais déjà parlé du fait que, pour les diffuseurs français, les comédies télé n'avaient pas de place dans les soirées, mais plus en fin d'après-midi, comme Maggie ou Vivement lundi. Il n'y avait pas réellement de sitcom américaine en prime time en France, donc bah encore moins de sitcom française. Mais ce qui va séduire, c'est le format. Un format que Thierry Bizot a emprunté à The Office, sa comédie américaine préférée, et qui inclut des scènes de faux documentaires, où les acteurs sont face caméra. Immédiatement, on imagine le lien avec ces reality shows très en vogue en France à l'époque, où les candidats sont involontairement drôles dans leur maladresse, et s'adressent souvent face caméra dans une salle spéciale dite de confession. Le ton était assez nouveau, car c'était avant tout la voix d'une autrice, Anne Gafferi. Et enfin, il y a la distribution. Même si ce sont tous et toutes des inconnus du grand public à l'époque, mis à part Bruno Solomon, qui était déjà membre d'un groupe comique parodique, les Nous c'est Nous, ben, il y a Isabelle Gélinas et Guillaume de Tonquédec, et eux, ils ont déjà joué au théâtre ensemble, et pourtant ils seront chacun dans les familles opposées, c'est marrant. Valérie Bonneton, elle, a remporté un Molière.
Ça m'énerve.
Ça m'énerve.
La première saison de Fais pas ci, fais pas ça est un retentissant échec d'audience. Carrément. Le côté faux documentaire est-il en cause ? Il semble que non. Les interprètes ? Eh ben non plus, car ils sont clairement très appréciés. Non, c'est simplement que personne ne la regarde quand elle est diffusée le samedi vers 19h.
Je demande des légumes verts, mais il n'y a que des brocolis. Et en plus, ils sont trop cuits, je prends donc des salsifis.
Et là, il s'est passé quelque chose d'incompréhensible. Ce qui aurait dû s'arrêter là, qui aurait dû sombrer dans l'oubli comme étant une excellente surprise, une tentative, mais qui n'a pas trouvé son public, bénéficie d'une deuxième chance, d'une réinvention. À notre époque où, très silencieusement, on signe pour 2 saisons, histoire d'amortir le budget dès le début, bon, ce qui se fait quand même sur une certaine plateforme ou sur des diffuseurs du câble, cela nous semble habituel. Netflix a bien renouvelé Marseille, hein. Mais à l'époque, renouveler une série qui s'est plantée pour le public à qui on la destinait, ben là c'était franchement unique.
J'ai parlé des salsifis. On m'a dit la chaîne du froid, ça ne nous intéresse pas. Ça m'énerve.
Comment cela s'est-il fait ? Quel a été le cheminement pour parvenir à la décision de poursuivre une série qui, dans sa case horaire dans laquelle elle était destinée, avait échoué.
Bah, en fait, alors vous parlez d'un échec, c'était un peu plus contrasté que ça en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'était sur une case samedi 19h. Et donc effectivement, en termes quantitatifs, ça ne répondait certainement pas aux attentes qu'avait France 2 à l'époque. En même temps, c'est une case qui était très casse-gueule parce que c'est une case de passage où les gens restent pas, enfin s'accrocher à une fiction, quelle qu'elle soit, était quand même un peu un pari difficile. Mais ce qu'on avait vu aussi à l'époque, c'est que très vite, l'écriture, la réalisation, le jeu, tout avait été hyper remarqué. Je me souviens d'un festival de La Rochelle cette année-là où ça avait eu d'ailleurs le prix de la meilleure série d'Access. Il y avait un prix à cette époque-là. Et surtout, tout le monde en avait parlé. Et puis dans le métier, tout le monde en parlait. Il y avait une espèce de vent de fraîcheur, quelque chose d'un peu différent. Et comme vous le disiez aussi, on pouvait comme ça parler de faire une série familiale un peu différente. Et je pense que ça a été des éléments qui étaient extrêmement importants. C'est-à-dire que qualitativement, il y avait quelque chose. Et le service public est là aussi pour défendre ce genre d'approche qui était un peu bien différent, bien qui bien était remarqué, etc., etc. Donc c'est vrai que on est, et c'est vrai que Éléphant y croyait fort aussi, a vraiment défendu par l'intermédiaire de Thierry Bizot, de Guillaume Renouille et de sa créatrice Anne Jaffery, ils ont défendu de se dire, eh bien écoutez, certes ça a pas marché, pas autant marché qu'on l'aurait souhaité, mais c'est bien, tout le monde le dit, à la chaîne aussi, tout le monde disait que c'était différent. Pourquoi on tente pas un prime, c'est-à-dire de le mettre, nous la case était le mercredi soir, vous le savez, sur les cases société, et c'est vrai que sur le coup, même en interne, moi je me souviens, j'étais conseillère de programme et on se disait mais c'est la folie, mais c'est vrai qu'en même temps c'est un peu le graal aussi de trouver une comédie familiale contemporaine, et voilà. Après, il y avait aussi une autre chose, c'est que ça touchait un public quand même plus jeune que le public traditionnel de France 2. Ça permettait de toucher des publics plus familiaux qu'on ne touchait pas forcément. Donc, il y avait la qualité, il y avait le public. Et puis, n'oublions pas aussi, et ça, on parle souvent de chronique familiale, et certes, puisqu'on parle de problèmes du quotidien et qu'on parle voilà, de nos vies, de nos familles, de nos couples, de nos enfants, de nos parents, etc. Mais il y avait une mécanique qui était très forte dans la série. C'est-à-dire, il y avait les Le Pic et les Boulets, qui s'affrontaient sur des principes d'éducation très différents. Et mine de rien, ben ça, c'était un concept de série. Ça permettait de construire une série, des enjeux, des arches. Et tout ça, ça avait un peu la saveur du prime quand même. Alors après, il faut réussir ce passage au prime. C'est vrai qu'après, on a fait évoluer pas mal de choses pour que ça devienne du prime. Moi, j'ai commencé à m'occuper de la série justement dans ce passage au prime. C'était un peu ma mission chez France 2 à l'époque, c'était d'accompagner ce passage au prime. Mais vraiment, il y avait vraiment un dispositif qui était très fort. Et l'origine de la série, c'était ça aussi. C'est-à-dire sur une espèce de question donnée ou un sujet d'épisode, comment les Pic et les Boulets vont absolument réagir différemment selon leurs valeurs, selon leur éducation à eux et leur vie et ce sur quoi leurs valeurs sont fondées en fait. Voilà.
C'est-à-dire que le concept de la série prouvait déjà dès le départ qu'il était suffisamment ambitieux pour accéder à autre chose qu'une série d'Access Prime Time ou sur des sketchs ou des choses comme ça. C'était vraiment ça. C'était le concept en tant que tel déjà demandait le prime time, quoi. Demandait une exposition un peu différente et un public un peu différent.
En tout cas, ce concept et ce dispositif permettaient certainement de l'envisager, c'est-à-dire de se dire, c'est pas que on va aller voir. Puis souvenons-nous aussi, la première saison, c'était un mockumentaire, hein, donc effectivement, on était dans un dispositif où on était avec des gens, on était dans un point de vue qui était le point de vue de cette caméra, de ce documentariste qui venait dans les familles, observer. Donc on avait déjà cette dimension un peu extérieure, et c'est vrai que l'idée de passer au prime, c'est d'être au cœur de ces familles et de plus avoir ce dispositif qui nous mettait un petit peu à distance, qui était certes drôle et voilà, c'est un principe le mockumentaire, donc ouais, avec ses forces évidemment. Là, l'idée de passer dans le prime, c'était de se dire, bah on va aller au cœur des familles, on va les voir vivre en fait. On n'aura plus ce principe qui nous mettait un peu à distance.
Alors, il y a donc une saison 2, au prix de quelques changements, on vient d'en parler, transformation, la série passe en soirée, le format passe à 52 minutes, on abandonne, on vient d'en parler, le côté faux documentaire, mais surtout, il y a l'arrivée d'une vedette de prestige, c'est Anémone, dans le rôle de la voisine revêche des Boulets et des Lepic, Madame Fernet. Alors, est-ce qu'Anémone, c'était l'hameçon pour accrocher le public et les journalistes? Parce que là, franchement, c'était quand même la big star qui était régulièrement dans la série. Elle était dans presque la moitié des épisodes, en fait.
Oui. Alors, on était très contents d'avoir Anémone, évidemment. Et puis, elle avait joué le jeu. Elle était très drôle. Mais en fait, le personnage d'Anémone, c'était déjà pour amener des gens un petit peu d'une autre génération. Pour le public de France 2, c'est-à-dire que il y avait quand même cette plongée dans des familles qui étaient et avec des enfants, etc. Donc c'était assez jeune entre guillemets. Et donc là, c'était aussi un comédien ou une comédienne, en l'occurrence d'une autre génération. Et puis surtout, c'est parce qu'en fait, dans l'évolution, vous parliez de l'évolution du concept entre l'Access et le Prime. La chose très importante qui est arrivée dans le concept, en dehors de Le Pic et des Boulets et de leur opposition autour de l'éducation, c'était qu'ils devenaient voisins. Et ça, c'était pas du tout dans la première saison. Et que Madame Fernet, d'une certaine manière, c'était un petit peu le lien, la voisine. C'était un petit peu le lien, l'arche narrative qui allait
qui permettait de passer des uns aux autres.
Voilà, d'accord. Qui permettait de passer des uns aux autres, qui permettait d'ancrer, géographiquement le fait qu'ils étaient voisins, ce qui dans la série, ils étaient faussement voisins parce que on trichait, parce qu'il y avait une maison là et une maison trois rues plus loin, mais peu importe. Et qu'on jouait beaucoup cette histoire de maison avec un peu ces choses un peu mystérieuses qui s'y passaient. Enfin bon, donc c'était il y avait cette arche autour de Madame Fernet qui était un peu pour lier les deux familles et de les positionner comme voisins, et puis de créer une espèce d'arche un peu mystérieuse autour de ce personnage et de faire un lien un peu narratif entre les deux familles aussi. Voilà.
Pour le plaisir, ne plus courir.
Et ouais, pour le plaisir, il y a aussi des guest stars, comme Patrick Bruel, Mathilde Amet et Pascal Légitimus dans cette saison 2. Et ils jouent leur propre rôle. Mais il y en a un qui va revenir un peu plus régulièrement que les autres, André Manoukian. Il tient le rôle de l'ex de Valérie Boulet et le père de Tiffaine. Mais surtout dans cette saison 2, ce qui était très épisodique et parcellaire dans les précédentes versions devient une évidence. Les deux familles se connaissent et elles deviennent amies. Si la saison 3 voit la continuité du ton ainsi donné et la naissance d'une nouvelle enfant chez les Boulet, c'est la 4, sous la direction d'écriture de Chloé Marsay, qui commence à secouer les personnages principaux sur leur fondement. En effet, l'adepte de l'ordre et de la rigueur, Renaud Lepic, voit sa femme au foyer se muer en femme politique et devenir adjointe au maire. Denis fait face au succès de sa nouvelle profession, à savoir coach, et tel Roméo et Juliette, Christophe Lepic et Tiffaine Boulet tombent amoureux l'un de l'autre. Bon, mais sans le destin funeste des Capulet et des Montaigu, bien sûr.
Heureusement.
Il s'est collé à Tiffaine comme une pâte américaine. There will be a lot of love, you know, with the beau Christophe. Il lui a dit oui, et elle l'a dit aussi. Ils se sont dit oui, en défiant tous les noms.
Dans les saisons suivantes, ils vont même emménager ensemble et ils vont avoir un enfant. Alors, c'était une évidence qu'à ce stade de la série, il y ait un lien familial entre les deux familles. Ça paraissait évident.
C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'après, il faut tenir sur la longueur. Et c'est pas qu'on est victime de son succès, au contraire, on était très contents parce qu'on a vécu ça. Franchement, on était très heureux de voir que ça prenait de l'ampleur et que voilà, on devenait une série un peu incontournable. Mais c'est vrai qu'après, il faut créer un peu des liens. Parce que l'idée, c'était qu'il y avait les Lepic et les Boulet, et très vite, il y avait des liens entre elles, entre ces familles. Dans la première saison, Tiffaine et Soline, Tiffaine Boulet et Soline Lepic étaient dans la même classe à l'école. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça c'est une chose. Mais c'est vrai que de créer un lien plus organique entre les deux familles, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se croiser, ils sont obligés de vivre des choses ensemble. Parce que ils ont chacun, ils deviennent les belles familles de l'un et de l'autre. Ça permet aussi des situations de les croiser déjà ces familles, parce que ça devenait narrativement un vrai pilier de notre narration. Des croisements, pas que des oppositions, mais des croisements. Et puis évidemment, ça permet de renouveler aussi un peu les intrigues, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la belle-fille ou le gendre et tout ce qui s'ensuit. Et évidemment, les oppositions qui étaient entre elles, entre ces familles, elles vont évidemment aller sur la vision du couple, sur leur positionnement, et éventuellement après le mariage et l'enfant, quoi. Donc c'était un peu une façon de naturellement et organiquement, si j'ose dire, lier les Lepic et les Boulets.
Saison après saison, on voit Denis passer de coach à restaurateur, mais là où il obtient un étonnant succès, c'est avec son personnage de Médusor. Vous entendez, il est en train de le chanter, là. Un personnage qu'il invente au pied levé. Bon, faut avouer quand même que cette chanson, elle est très entraînante. André Manoukian lui fait enregistrer un album pour enfants. Et là, il fait un malheur. Sauf que, au même moment, Valérie va se prendre un amant.
Petite chérie, si tu ne veux pas d'ennui, prends un homme marié. Il ne viendra pas gratter.
C'est d'ailleurs quand les couples sont fragilisés, soit parce qu'ils traversent une crise amoureuse, soit parce qu'ils sont sans emploi, que la série connaît sa plus forte audience. Presque 5 millions de spectateurs en saison 7. Donc, très naturellement, en saison 8, on continue à mettre les couples en danger. Les Lepic sont menacés de perdre leur maison parce qu'ils ont investi dans un gîte en Sologne. Mais on est toujours sur la fine ligne entre l'humour et le réalisme. À la fin de la saison 6, Valérie Boulay et Fabienne Lepic se retrouvent même dans une prise d'otage le soir de Noël. Fanny Rondeau, des couples qui se séparent, des menaces potentiellement anxiogènes. C'est une volonté de se renouveler encore, de ne pas laisser la série ronronner. Mais est-ce qu'il ne fallait pas craindre l'épisode de trop? Comme, on va dire les choses franchement, comme quand une famille formidable sur la chaîne en face a envoyé ses personnages sur une île perdue, et qu'on a tous pensé à Lost, quoi. Est-ce que vous n'avez pas craint, avec les scénaristes et la production, de faire cet épisode qui repousse un petit peu trop les limites habituelles de « fais pas ci, fais pas ça ».
Ah bah écoutez, je vous cache pas que ça a été beaucoup de discussions entre nous, assez vives d'ailleurs, parce que je pense que d'un côté... Oui, absolument. Oui, parce que vous posez une très bonne question et surtout une vraie problématique, c'est que d'un côté, il faut toujours se renouveler et qu'il faut faire vivre ces séries et qu'il faut trouver des choses, et que je vous assure que c'est pas toujours si évident que ça. Donc il y avait ce mouvement aussi de jamais avoir le sentiment, ça c'était très fort dans l'équipe de création, jamais avoir le sentiment de re-raconter toujours la même chose. Et donc d'aller sur des terrains et effectivement un peu plus peut-être glissant, ou en tout cas explorer d'autres facettes de la vie familiale. Et c'est vrai que la vie de couple, et surtout de ces couples-là qui arrivaient aussi à un moment de leur vie qui était un peu le fameux milieu de vie, donc toutes ces questions étaient assez légitimes de se les poser. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de problème à se les poser dans le cadre de « Fais pas ci, fais pas ça ». Là, effectivement, où on a été plus dans la discussion et la réflexion ensemble, avec parfois... c'est une saison qui n'a pas été facile à faire à ce niveau-là, aussi parce qu'il fallait se renouveler. Parce qu'en même temps, effectivement, l'idée, c'était quand même de rester dans les codes de la série. C'est-à-dire que c'est très bien de faire un pas de côté ou de décaler un peu le propos. Mais c'est vrai que... et moi, en tant que chaîne, à l'époque, j'étais un peu à dire « Mais attention, c'est bien, il faut faire ça, mais il faut aussi que nos spectateurs y retrouvent la saveur de la série. »
Est-ce que vous n'allez pas trahir les personnages? Enfin, grosso modo...
Alors, voyez, moi, j'étais... Et voyez comme quoi, moi, j'étais effectivement assez... moi, je suis toujours pour on tente des choses. C'était pas l'idée de dire « Ouh là là, faut pas le faire. » C'était de dire « Comment on le fait ?» pour que tout le monde s'y retrouve. Donc ça a été pas mal de effectivement, hein, c'est bien aussi une équipe créative, il faut que ça échange et ça vit, etc. Et comme vous le disiez, c'est la saison qui a certainement le mieux marché. Donc moi qui avais un peu peur de me dire oh là là, on va perdre le spectateur et il va pas retrouver ses codes et ce qu'il aime n'en fait pas si, finalement je pense que le truc qui s'est passé aussi, c'est que vous soulignez l'évolution des personnages et des parcours depuis la saison 3 ou la saison 4. Ce qu'on a vécu aussi avec Fais pas ci, c'est que les gens, ces familles-là, le public y est très attaché. Et donc, ils étaient aussi très friands de scènes d'émotion. Que rigoler, c'est pas forcément ce qu'ils attendaient dans Fais pas ci. Toutes les scènes un peu émotion ou tendresse ou tout ce qui était aussi pouvait contrebalancer la comédie. Les gens étaient très preneurs parce qu'ils s'attachent énormément à ces deux familles, pourtant qui revenaient effectivement tous les ans, mais sur un volume de 6 à 8 épisodes de 52 minutes, donc 3 ou 4 soirées par an, on pourrait se dire que c'est pas la force d'un feuilleton quotidien. Mais les gens étaient hyper attachés, se demandaient ce qui allait se passer. Est-ce que enfin Renaud allait devenir numéro 1 des Robin et Binet? Est-ce que Fabienne allait devenir mère? Est-ce que Denis allait enfin trouver un boulot? Valérie se trouver une nouvelle voie professionnelle? Enfin, voilà. Et puis les enfants, évidemment. Et qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Les études, les amours, etc. Donc en fait, il y a la comédie, mais il y a un vrai attachement à ces personnages. Et c'est ça qu'on a pu vivre aussi dans cette saison 7. C'est-à-dire que ils étaient un peu inquiets de qu'est-ce qu'allait devenir ce couple boulet? Est-ce qu'ils allaient s'en sortir? Voilà. Est-ce qu'ils allaient perdurer au-delà de tous ces épisodes heureux ou malheureux?
Une autre décision scénaristique va aussi impacter la série, lui donner une autre dimension. En 2013, en saison 6, on découvre que Charlotte Lepic est gay. Jusqu'alors, elle était qualifiée comme sensible.
J'aime les filles.
Hein?
J'ai pas un petit copain, mais une petite copine.
Ah, t'es sûre? Parce que c'est des fois où...
Je suis amoureuse. Elle s'appelle Marie.
Non. Non. Non, tu te cherches, c'est l'âge, c'est normal, tu crois savoir ça, mais non. Non, moi je sais que c'est non.
Mais moi je sais que c'est oui, maman.
Ça changera, tu verras, je le sais.
Ok, si tu sais mieux que moi, je vais en parler à papa, il sera peut-être plus compréhensif.
Tu n'en parles pas à papa, je t'interdis de lui en parler.
Là, Fanny, cette trame est à l'occasion de remettre en cause les concepts de la ville et le pic. Diriez-vous qu'ils sont plutôt du genre à être dans la manif pour tous et que donc cette histoire va faire basculer leurs convictions? C'était quand même un petit peu l'idée, quoi. Ça arrive au le pic.
Ouais, justement. Mais c'est plus intéressant parce que ce qui est beau d'ailleurs dans ce parcours, oui, on a voulu absolument que ça soit Charlotte Lepic qui soit gay, parce que justement, les Lepic qui sont catholiques, avec des valeurs familiales, c'est évidemment un tremblement de terre pour eux dans leurs valeurs et dans leur vision de la vie, etc. Et donc, ça confronte un petit peu, effectivement, leurs valeurs. Je pense qu'elles ne changent pas leurs valeurs, au fond, même si après, au fur et à mesure des années, évidemment, elles se façonnent et qui sont un peu moins... Comme ça, un peu borné que quand on les avait dessinés dans les premières saisons, forcément que ça les fait bouger. Mais au fond, ils restent, et c'est ça qui est intéressant, ils restent avec leurs valeurs, ils restent un peu les mêmes quand même. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Renaud et Fabienne aiment leurs enfants.
Absolument.
Donc, c'est ça la base. Au fond, même si ça les bouscule et même si ça va à l'encontre de ce qu'ils pensaient, Charlotte reste leur fille et ils aiment leur fille, donc elle restera leur fille. Et c'est ça en fait la morale de cette histoire, c'est-à-dire que et quand Fabienne célèbre le mariage, un mariage gay, c'est aussi pour dire voilà, moi je suis pas forcément, j'ai pas forcément. Maintenant ça nous paraît un peu le Moyen Âge, hein, mais à l'époque le mariage gay venait de passer, il y a 6-7 ans. Célébrer un mariage gay quand elle était adjointe au maire, c'était aussi de dire, moi je fais respecter la loi, parce qu'aujourd'hui la loi c'est de pouvoir marier deux personnes de même sexe. Donc ça, je fais respecter la loi et je ne m'y oppose pas. Et puis aussi, c'est montrer à sa fille qu'elle l'aime et qu'elle la respecte dans ses choix. Voilà.
Ce dont on se rend compte maintenant, c'est que, sous l'apparence d'une comédie dramatique un peu amusante, la série a pas mal évolué, pour devenir de plus en plus au fait de la société, donc de bousculer gentiment ses spectateurs habituels. Comme on arrive déjà à une demi-heure, le temps passe, c'est la semaine prochaine que l'on abordera avec Fanny Rondeau la fin de la série et son retour pour cet épisode spécial, qui sera donc diffusé le 18 décembre prochain sur France 2. Et on parlera à la journaliste Stéphanie Gorlin, qui a été la chanceuse sur le tournage de cet épisode. Donc, rendez-vous dans une semaine pour le prochain Previously. Ah, je savais que vous adoriez ça. Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.